avoir des propos aussi.
Et ça se passe sur les réseaux, quoi. C'est-à-dire ouais, que t'es derrière ton truc et.
Ça, c'est aussi quand tu quand t'axes tout le truc sur le culturel. Mm-hmm. En fait, le truc, c'est que par exemple en Belgique francophone, quand même, mais en Belgique, on axe plus les débats et les discussions et les sujets sur le socio-économique, sur toutes les questions. Est-ce que je vais me chauffer? Est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce que je vais avoir un toit? Est-ce que ma voiture va pas me coûter
trop cher? Les choses de la vie, quoi.
Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que typiquement en France, on axe tout sur le culturel, tout sur le culturel. Et le truc, c'est que quand tu axes des choses sur le culturel, forcément tu divises la société. Mm-hmm. Et les gens, s'ils ne voient que ça, ils vont commencer à penser que c'est littéralement ça qui va sauver leur vie. C'est les étrangers, c'est le voile, c'est le halal, c'est les noirs, c'est les immigrés, c'est tout ça, alors que pas du tout. Et au final, on peut juste se rendre compte que qu'une personne porte le voile ou non, finalement ça ne me met ni un toit sur la tête, ça ne me permet ni de manger, ni de boire, ni de m'habiller correctement.
Ça ne met pas en péril
ça ne met rien en péril chez moi. Mais le truc, c'est que on va mettre tout ça dans la tête des gens, et la culture, c'est ce qui retourne généralement le cerveau. Mm-hmm. Parce qu'on va se sentir dépossédé de quelque chose qu'on aurait. De la grande France, par exemple.
Mais la grande France, on en parle aussi, parce que
l'histoire, on édulcore tout ça.
Le fait d'autoriser, du coup, la haine sur les réseaux, ça incite, j'ai l'impression, encore plus. Les gens vont se dire, OK, c'est bon, je peux me lâcher 10 fois plus, tu vois.
Bien sûr, c'est un cercle mm-hmm. vicieux. Et le truc, c'est que les réseaux sociaux, ils viennent jusqu'à effacer tout mouvement de protestation. J'entends par là le fait que, par exemple, en Belgique, la gauche est majoritaire, qu'on le veuille ou non. D'un point de vue mathématique, la gauche est majoritaire, que ce soit à Bruxelles, pas en Wallonie, mais à Bruxelles, au fédéral aussi, je crois, la gauche est majoritaire. Donc la Belgique, en soi, est un pays majoritairement à gauche. Mais ce qu'on entend le plus, c'est la droite et l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que quand un mouvement protestataire commence, les réseaux sociaux vont venir montrer ça et atténuer ce mouvement. En faisant croire que finalement en fait c'est que 2-3 pélos qui sont perdus dans la rue et qui crient alors qu'en sociologie généralement on dit que l'être humain, s'il voit d'autres êtres humains comme lui sortir, ça va l'inciter lui aussi à sortir et ça crée un mouvement de foule. Si on vient briser cette idée de dire que il y a que 2-3 personnes, forcément la plupart des gens vont pas vouloir sortir parce qu'ils vont se penser seuls, et quand on se pense seul, généralement on a moins envie de s'exposer.
Oui, c'est un peu le problème des réseaux. Mais bon, il y a toute la majorité silencieuse dont on n'entend pas la voix.
C'est ça.
Mais je pense que quand je dis majorité, la majorité des gens est plutôt pacifique, plutôt accueillante, bienveillante, multiculturelle, connaît son histoire et pas nécessairement que dans sa génération ou tu vois.
Bien sûr.
On peut aller plus loin. Vous parlez de la grande France, mais si on va plus loin dans l'histoire de la France. On parle des Bretons, c'était un autre peuple. Pourtant, maintenant, ils font partie de la France. Mais je veux dire, c'est pas lointain.
Et même encore, on n'a même pas besoin d'aller aussi loin. On peut juste se dire, la France d'autre temps que certains veulent remettre, c'est une France qui était généralement sexiste, esclavagiste. Est-ce que c'est vraiment ça, la France, la grandeur, la pureté française?
On prend ce qu'on veut, quoi.
Ouais, c'est ça. Et juste pour revenir un petit peu au mouvement protestataire et aux réseaux sociaux, etc. Par exemple, là, il y a une manifestation qui se passe devant l'ambassade américaine.
Où ça ?
Pour protester.
En Belgique ?
Oui. Là maintenant, il y a une manifestation qui se passe devant l'ambassade américaine pour protester justement contre l'élection de Trump.
D'accord.
Et ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ça sert à rien, il faut pas y aller, etc. Et même parfois des gens de gauche qui disent ouais, mais ça sert à rien. Là, c'est vraiment inutile. Alors qu'en réalité, non. Le truc, c'est que là, Trump, il arrive avec tout le monde qui l'applaudit, tout le monde qui se lève à toutes les deux minutes pour son discours. Il y a personne qui vient qui lui dit, mais en fait, moi, je t'aime pas. Mm-hmm. Et moi, je pense qu'il est important de dire, moi, je t'aime pas.
Bon, après, quand il y a des investitures de président, il y a des personnes qui peuvent venir contrecarrer le discours. Non, je crois pas, non. Ça s'est jamais fait comme ça.
Non, mais à l'international, enfin, ici en Belgique, par exemple, le fait d'aller d'amoindrir la manifestation contre Trump, je pense qu'il faut pas non plus dire que les personnes qui vont manifester sont totalement débiles et qui savent pas que c'est pas avec leur manifestation qu'ils vont retirer Trump du bureau ovale. Mais je pense que c'est quand même important
de montrer son positionnement.
Que je t'aime pas et que t'as pas la gloire acquise, et il y a quand même des gens qui t'aiment pas et qui sont contre toi.
Oui, mais après il faudra voir ce que diplomatiquement nos gouvernements vont faire, parce que il va falloir composer, je pense. Ça sera obligatoire.
Oui.
Oui, il faudra composer avec Trump, et bon, voilà, enfin, on est à la Belgique, on va pas trop faire, enfin, je veux pas...
Tu dis ce que tu veux, Noah. Oui, bah, ouais. Tu penses ce que tu veux et tu partages avec nous, il n'y a aucun souci.
Voilà, là, nous, on est la Belgique, on est dans l'Union Européenne, même si peut-être, mais bon, après, faut voir avec le gouvernement qu'on aura, parce qu'il doit se faire depuis longtemps, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Faut voir avec le gouvernement qu'on aura, comment il voudra composer avec Trump. Je pense que c'est un gouvernement qui, peut-être, voilà, n'aura pas trop... Enfin, je dirais... quand je vois le gouvernement qu'on aura, on aura un gouvernement NVA, MR, engagé, CDNV, Voreuil, ce sera un gouvernement qui pas veut composer avec Trump, mais qui se dit, bon, voilà, il y a Trump qui est au pouvoir, maintenant, nous, on doit se débrouiller, sans pour autant faire en sorte que Trump soit notre ennemi non plus.
Ils sont pas vraiment contre Trump non plus.
Genre, oui, voilà.
George Boucher, par exemple.
Oui, vraiment, ils sont.
Ils sont pas vraiment.
Voilà, c'est pour ça c'est pour ça que je me suis dit, pardon, que bon, le gouvernement qu'on a eu, peut-être, ça aurait été un petit peu différent, mais le gouvernement qu'on a maintenant, ça va être autre chose. Il sera peut-être un peu plus collaboratif vu les personnages que nous aurons dans ce gouvernement.
Et quelle incidence ça va avoir sur l'Europe ? Parce que je pense, par exemple, à une seule chose. Je pense à la conquête spatiale, par exemple. Ouais. On parle là récemment, des fusées de Elon Musk, qui ont pas très bien fonctionné ces derniers temps. Bon, voilà, c'est pas très grave, ça arrive dans un calendrier un peu tristouné pour lui. Mais Jeff Bezos aussi, qui part à la course pour la conquête spatiale, pour de la Lune, pour Mars, etc. Ça, c'est quand même quelque chose de très important qu'il faut garder à l'œil. On a toute une partie de l'Asie aussi qui se positionne sur ce sujet-là. Et l'Europe, on n'a aucune info sur ça.
Donc, on est là avec l'ESA. On est là,
on est positionné,
mais on en a. Mais le truc, c'est que Ariane 5, Ariane 7, etc. Mais le truc, c'est que l'ESA travaille énormément avec la NASA.
Oui.
C'est deux entités qui sont quasiment liées. Donc, si la NASA va mal, généralement, l'ESA va mal aussi.
Et la NASA se porte bien, un peu grâce à SpaceX aussi, récemment.
La NASA se porte très bien. Franchement, ça va.
D'accord,
ils se débrouillent pas mal.
Ils ont des Tony Stark milliardaires qui sont capables de créer de la nouvelle technologie spatiale puisque les nouvelles fusées sont exceptionnelles.
Ils ont un nouveau truc. Ils ont la sixième branche militaire américaine qui est la Space Force.
Alors explique-nous.
C'est l'armée de l'espace.
Voilà.
Trump qui a décidé de la créer.
Attends, c'est nouveau ça?
Non, c'est la première législature qu'il a eue.
Ah oui, mais enfin, je veux dire, c'est de Trump, quoi.
Ah oui, 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 c'est de Trump.
La Space Force, mais c'est bon, on dirait une saga, c'est une saga Disney là.
Du coup, Bilal, c'est quoi? C'est une armée de l'espace.
C'est ça. C'est une armée de l'espace.
C'est pour attaquer qui?
C'est pas pour attaquer, en fait.
C'est pour prendre.
C'est ça. C'est vraiment ça.
Bah oui.
L'idée, c'est vraiment de
planter leurs drones américains sur Mars.
C'est ça. C'est de sécuriser l'espace et de le contrôler. C'est de se dire. Personne ne peut aller dans l'espace si je t'en donne pas l'autorisation.
Ouais, genre même ça aussi, tu vois.
Mais en même temps, enfin, je veux dire, quand tu penses la conquête, qu'elle soit politique, économique et ça, maintenant, elle sort de notre terre pour aller dans les étoiles. À un moment donné, si tu te positionnes pas, c'est quelqu'un d'autre qui prend la place.
Ouais.
Donc il y a toute une partie, donc le monde à notre gauche, les États-Unis qui sont déjà bien.
Très bien.
Voilà.
On va voir ce qu'ils vont faire. On va voir comment est-ce qu'ils vont se positionner par rapport au traité de l'espace.
Le traité de l'espace, alors qui le fait ?
En fait, le traité de l'espace, c'est un traité qui a été signé dans les années 60,
ouais.
Et qui met d'accord tout le monde sur la planète pour dire que tout ce qui est dans l'espace appartient à l'humanité, n'appartient pas à un pays.
Ok, ça c'est la base.
Ça c'est la théorie.
C'est la Bible, quoi.
Okay. Mais si les États-Unis demain voilà. commencent, ça sera à eux.
Bah oui.
Ils sont capitalistes, donc
oui.
la collectivité, c'est pas dans leur ADN.
Non, c'est pas dans leur valeur.
Mais en même temps, si on fonctionne avec leur mentalité, et avec la mentalité, je veux dire, de conquête, on peut comprendre qu'ils se disent, on c'est le premier arrivé, premier servi, entre guillemets. Ça va se faire avec, comme avec le côté monétaire, le dollar. C'est la même chose. Ils ont implanté, voilà. Et ça se passe aussi, en Asie, puisque les Chinois sont en train d'envoyer des fusées aussi. Elle est où notre fusée à nous? Elle est où?
Après, je sais pas, enfin, moi, il y a une question quand même que je me pose par rapport
Pesquet.
On
a Thomas Pesquet, mais on a un astronaute. Mais Thomas Pesquet était avec SpaceX.
Oui.
Sur l'ISS, donc il est pas allé avec Ariane.
Non.
Et Ariane n'a pas la technologie de fusée réutilisable.
C'est pas les technologies, c'est l'argent.
On n'a pas l'argent, nous.
On n'a pas le même budget.
Non.
La NASA, c'est
compliqué, nous.
La NASA, c'est 20 milliards de budget.
Ok. Et l'Europe, on n'est pas capable de réunir 20 milliards avec Bernard Arnault et tout le monde.
C'est plus compliqué.
Mais pourquoi?
C'est plus compliqué parce que l'Europe, c'est pas une entité, c'est pas un État, c'est pas quelque chose d'unifié, c'est des pays qui, à leur bon vouloir, vont dire, tiens, je vais faire ça ou pas. Donc on est totalement fragmenté. Et quand on a de l'extrême droite qui va monter dans les pays, bah forcément on va revenir à une logique protectionniste et nationaliste, on va se refermer sur soi, et quand on se referme sur soi, on ne fait pas avancer ni la science, ni la technologie, et encore moins l'espace.
C'est très intéressant ce que tu dis. Il y aura aussi la fuite des cerveaux.
Oui.
Puisque évidemment, si les autres pays, les autres territoires proposent des carrières plus intéressantes et des technologies plus avancées, ça veut dire que les gens, les cerveaux, c'est ce qu'on dit, la fuite des cerveaux, quoi. Mmh. Les gens qui sont nés ici et qui ont envie d'avancer dans leur carrière ou de vraiment faire participer à l'évolution technologique, etc., de leur pays, vont partir aux États-Unis, vont partir en Asie, et donc il y aura un appauvrissement intellectuel de l'Europe.
Et ça commence tout doucement. Il y a de plus en plus de personnes qui vont fuir l'Europe pour des pays en voie d'émergence ou déjà émergés, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, Dubaï, les Émirats, Oman, le Maroc, etc. Et ça part tout doucement.
C'est vrai que c'est bien que tu en parles aussi, parce que moi je parle beaucoup de l'Asie, mais l'Orient, évidemment, les pays arabes font énormément aussi, sont en train de bien avancer sur ça. Et il y a tellement de gens aussi, enfin il y a énormément de gens qui partent vers là-bas.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup. Donc, et peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une petite fusée Qatari.
Je crois qu'il y en a déjà une.
Ah bon ?
Je suis pas sûr. Je sais qu'il y en a eu deux marocaines. L'Arabie Saoudite, je pense qu'elle en a lancé aussi. Maintenant le Qatar, je suis pas sûr.
Non mais ça va, mais j'ai lucubre.
Il y a moyen.
Mais en même temps, nous on est ici, voilà, on est en Belgique, on est capitale de l'Europe, et je trouve ça quand même un peu troublant qu'on ne soit pas positionné sur la conquête spatiale comme les autres.
D'abord, on a un déficit à régler avant la conquête spatiale, je pense. Parce que, le chiffre, il est pas vrai, hein, mais on parle de 66 milliards de subsides qui ont été donnés, mais on sait pas les retracer.
Attends, de qui à qui
De qui à qui
Mais vers qui Des subsides vers nous, vers l'Europe?
Non, des subsides de l'État. Oui, voilà.
Comment?
Intra-belge.
À l'intérieur du pays.
Oui, donc ici. L'État donne des subsides à d'autres entités.
Oui.
Sauf qu'on ne sait pas les retracer, on ne sait pas à quoi ils ont servi. Mais mis à part ça, on a aussi les finances publiques qui sont dans un état un peu compliqué. Donc là, Bardo Weaver parle depuis qu'il est promis aux élections qu'il faut assainir les finances publiques. Et c'est pour ça que bon, même si c'est vrai que la Belgique, il y a des choses sur lesquelles on pourrait être un peu meilleur. Là, je pense qu'on doit se recentrer sur l'essentiel. Et voilà, déjà l'essentiel c'est d'avoir un gouvernement d'abord, et donc rien que ça c'est compliqué. Donc
oui, mais ça c'est pour la Belgique, je veux dire, il y a quand même des choses qui se passent au-dessus en termes européens. Excusez-moi, je suis attaquée par une attaque virus des États-Unis qui m'empêche de parler. Non, mais c'est en train de se passer en direct.
Laura va s'étouffer. Donald Trump m'a entendu qu'on parlait de lui.
Ça m'énerve cette histoire, quoi. On n'a pas les finances, etc. Mais aux États-Unis, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Aux États-Unis aussi, ils sont mal. C'est problématique, les finances. Pourtant, ils sont quand même là. Je vous laisse parler, je bois de l'eau.
Alors, Bilal, hein.
C'est quoi la différence entre leur chaos et notre chaos?
Bah, leur chaos, ils peuvent le contrôler. Notre chaos, on ne peut pas tout à fait le contrôler. C'est-à-dire que on en revient à la monnaie. Les États-Unis contrôlent littéralement la quantité d'argent qui est en circulation, ce qui permet justement de contrôler leur déficit. Et si jamais ils ont un trou, un endettement ou quoi aux caisses, par exemple pendant le Covid, quand il a fallu trouver beaucoup beaucoup d'argent d'un coup, bah les États-Unis font un truc très très simple. Ils disent qui veut nous prêter de l'argent. Et là, les États et les entreprises du monde entier commencent à se battre pour prêter de l'argent aux États-Unis. Ouais. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, c'est un peu comme les Lannister dans Game of Thrones.
Ah !
C'est-à-dire qu'ils remboursent toujours leurs dettes.
Les
États-Unis sont connus pour ça.
Ok.
Ils sont connus pour ça. Ils sont, pour une fois.
Pour les dettes, en tout cas.
Pour les dettes, pour les remboursements, etc. Donc, en fait, ils sont capables d'amasser une énorme quantité d'argent juste en disant qui veut nous prêter de l'argent.
Mm-hmm. Là aussi, la Belgique demande de l'argent. Comment on va pas se bousculer,
quoi. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais les États-Unis sont très attractifs justement parce que c'est eux qui... Le dollar, c'est eux. Mm-hmm. Et donc, en fait, quand on rend un service aux États-Unis, généralement, on sait que le service qui va nous être rendu ensuite sera tout aussi intéressant. Et surtout quand on prête de l'argent à la première puissance mondiale, on se dit quand même que c'est plus intéressant que la prêter à la Belgique. Ce qui fait que, par exemple, justement, pendant le Covid, les États-Unis ont pu récolter 2000 milliards.
Ok.
C'est énorme.
Mais là, on parle en termes de Belgique versus États-Unis. Mais nous, on a aussi nos États unie quelque part
l'Europe
par l'Europe. Non?
L'Europe, non.
L'Europe, s'il demande de l'argent, il va t'acheter un volo de chez Quick. C'est quoi?
Oui, on n'est pas capable de réunir autant d'argent que les États-Unis, comme ça, d'un coup, juste en disant qu'ils veulent nous prêter de l'argent.
Mais c'est ouf.
On n'est pas aussi attractif que les États-Unis. L'Union européenne est une union, mais c'est pas un État. Mm-hmm. On est de toute façon soumis à la BCE et finalement au marché mondial, si je peux le dire comme ça. On est soumis à tout ce qui est taxes douanières et échanges commerciaux, que ce soit avec l'Amérique, mais aussi avec le reste du monde. On est soumis à plein de facteurs qui font que notre monnaie n'est pas aussi contrôlable, n'est pas aussi stable que celle des États-Unis.
Ok. Et quand tu dis « prêtez-moi de l'argent », ils disent les États-Unis, c'est qui leur prête? C'est l'Europe aussi, non?
Oui, ça peut être.
Donc nous, on leur prête, mais eux, non.
Ça peut être des États, ça peut être des entreprises, ça peut être des banques, ça peut être... Tous ceux qui veulent prêter de l'argent aux États-Unis peuvent.
D'accord.
Et les États-Unis acceptent, et ensuite, on vous est remboursé.
Et à quel taux d'intérêt, tu sais?
Une personne aussi pourrait?
Je sais pas. Enfin, si tu t'appelles Mark Zuckerberg, oui.
À l'autre?
Maintenant.
voilà, j'ai 20 euros et 40 centimes. Je sais pas si c'est... Apparemment, vous êtes comme les Lannister.
Maintenant, moi... Pas sûr.
Est-ce qu'il y a un taux d'intérêt? Parce que...
Pas certainement, mais ça c'est le problème du monde, c'est les taux d'intérêt.
Ouais.
C'est la dette qui continue de s'agrandir par elle-même, puisque la dette elle-même engendre des intérêts de dette.
Ouais.
Donc c'est fou, c'est complètement fou ce système.
On appelle aussi l'argent éternel.
Mm-hmm.
Avant il y avait le cycle de l'argent, donc, c'est-à-dire comment est-ce que l'argent naît, vit et meurt. On imprime l'argent, donc il naît, ensuite il rentre en circulation, il vit... Et une fois qu'on a imprimé la même quantité est retirée du marché pour être brûlée.
D'accord. Ah, on gardait un équilibre de nombre, en termes de nombre de billets.
C'est ça. Et quand cet équilibre était dépassé, ben arrivait, pour donner un exemple, l'Allemagne.
C'est-à-dire
que...
On est censé comprendre ce que tu viens de dire.
En 1929, quand il y a eu la crise boursière... Ben justement,
Le crack boursier. Okay, en 29, ouais.
L'Allemagne a énormément imprimé d'argent. Et ça a déséquilibré la balance, ce qui fait que... La banque allemande a dû commencer à imprimer des billets de 1 milliard de Deutsche Mark, etc. Ça a ruiné leur économie et ça a favorisé d'ailleurs la montée du nazisme en Allemagne.
La pauvreté peut-être qui a découlé,
Le chaos aussi qui a découlé.
Une mauvaise gestion engendre quand même souvent, j'ai l'impression, des drames après.
Oui, bah ça j'allais y revenir justement.
Mais vas-y Bilal.
Mais juste pour revenir du coup sur la vie de l'argent. Mm-hmm. Donc avec les accords européens, on a mis fin à la vie de l'argent.
Okay.
On a commencé à dire que les banques nationales ne pouvaient plus prêter de l'argent à leur État.
D'accord.
La banque nationale belge ne peut pas prêter d'argent à l'État belge.
D'accord. Elle peut prêter à qui?
C'est ça la dinguerie, c'est que la Banque Nationale Belge doit prêter de l'argent aux banques qui, eux, prêtent de l'argent à l'État belge.
Ah, d'accord. Il y a une interface au milieu.
C'est ça. Et donc, sur la quantité d'argent que les banques peuvent emprunter, elles doivent avoir 10%. C'est dans la réglementation. Elles doivent avoir 10% de cet argent en propre, donc en cash, dans leur banque. Et sinon, le reste, ben, c'est juste des chiffres. L'argent n'existe pas
virtuel,
en réalité.
C'est virtuel.
C'est ça. 90% de l'argent n'existe pas en réalité. Mm-hmm. C'est purement virtuel. Ce sont des chiffres dans un ordinateur.
C'est pour ça que quand les personnes veulent venir chercher leur argent en physique, il y a des problèmes puisque l'argent n'est pas disponible.
C'est ça. Et l'argent, en fait, une fois qu'il arrive chez les banques le rejouent dans le marché, ce qui fait grossir et ça continue comme ça et ça crée soit un cercle vertueux au début et ensuite ça commence avec un cercle moins vertueux.
Tu peux rentrer un peu dans les détails de ça pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que la banque nationale prête à la banque, aux banques physiques qu'on
c'est
a,
ça.
La BNP, l'ING, je sais pas quoi il y a quoi, Belfus,
tout ça. Et ces banques-là vont prêter de l'argent à l'État belge.
Okay.
Elles vont le prêter avec un taux d'intérêt qui sera négocié en amont.
Sera le même pour toutes les banques?
Non, pas forcément. Pas forcément. Et il faut savoir
aussi
que...
avoir des liens particuliers avec certaines filiales.
L'État peut emprunter à taux négatif.
Qu'est-ce que c'est un taux négatif?
C'est-à-dire qu'en général, quand nous, en tant que personne, on va emprunter de l'argent à la banque, on doit rembourser plus que ce qu'on a emprunté, avec l'intérêt.
Oui.
L'intérêt négatif, c'est...
Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Ouais.
Bah, l'intérêt négatif pour l'État, c'est je vous prête 10, mais vous me remboursez 9. Ça, c'est quelque chose que l'État peut faire.
Attends, tu fais jouer la concurrence. Tu vas dans une des banques qui dit, moi, mon intérêt négatif, il est plus important que l'autre, donc viens chez moi.
Et ça, c'est un intérêt que les banques peuvent faire parce que l'État, en fait, c'est pas une personne. Et donc, vu que l'État est garant, justement, de cette stabilité monétaire, eh ben, les banques sont suffisamment en confiance que pour dire, nous, on est capable de vous prêter à taux négatif.
Et entre-temps, quoi qu'il en soit, la banque aura fait fructifier l'argent, donc elle rentre dans ses frais, quoi.
Et justement, c'est la Casa de Papel qui arrive,
voilà.
Et puis là,
voilà. Quel professeur, là, on peut plus rien.
Le truc, c'est qu'on fait fructifier cet argent, et on le remet dans le système, et à chaque fois, et ça continue. Et en fait, ça fait grossir une bulle, et finalement, l'argent qui est en circulation ne reflète plus la réalité matérielle de ce qu'on possède, nous, en tant que personne, en Belgique.
Et si on va jusqu'au bout de l'éternité de l'argent éternel, il y a quoi?
Il y a la crise. En fait, cette bulle va tellement grossir que cette bulle explose. Et quand cette bulle explose, ben ça crée de l'instabilité, ça crée du chaos. En Amérique du Sud, ça a créé les cartels, ça a créé le chaos, tout simplement. Et par exemple, en 2008, quand il y a la crise des subprimes, ben c'est exactement ça. C'est justement l'argent qui a fructifié, ça a créé une bulle. Cette bulle était devenue totalement détachée de la réalité matérielle de ce qu'on avait.
Des biens.
Et ensuite, elle a explosé. Et ça a créé justement la crise de 2008 de financière.
Oui, qui est arrivée jusqu'à nous, parce que c'est parti des États-Unis avec les crédits horribles qu'ils avaient.
Oui, mais eux c'est encore pire. Ça encore chez nous c'est réglementé. Là-bas c'est n'importe quoi.
Je veux dire les taux d'intérêt des
tout est réglementé. C'est-à-dire que même les fonds propres que la banque doit avoir pour pouvoir emprunter de l'argent est réglementé en soi.
Et là-bas
aux États-Unis c'est 0%.
C'est-à-dire que
c'est 0% d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que les banques peuvent emprunter autant qu'elles veulent sans devoir rembourser à la banque, à la Fed, donc la Réserve fédérale, avec un taux d'intérêt.
D'accord. Et ça engendre quoi précisément?
Bah, en fait, ça fait que les banques peuvent emprunter autant qu'elles veulent sans forcément avoir l'argent pour rembourser, sans avoir ce filet de sécurité que nous en Europe on a fait avec les 10% justement de fonds propres que chaque banque doit avoir. C'est justement ce petit filet de sécurité. Aux États-Unis, ils l'ont pas. Il n'y a pas ce filet de sécurité.
Et ça crée Goldman Sachs, etc. D'accord. Il n'y a plus d'argent pour rembourser parce qu'on n'en avait pas au départ.
Voilà.
On a vu trop gros.
Voilà. Mais c'est pour ça que, justement, les propos de Trump qui disent « Moi, je veux arrêter la guerre », bah c'est faux, puisque la guerre, ok, ça fait beaucoup de victimes, mais la guerre économique, les crises économiques font encore plus de victimes que les guerres normales. Enfin, les guerres normales, on s'entend bien, les guerres avec les soldats, les gens qui vont sur le terrain, etc. Mais les guerres économiques font beaucoup, beaucoup plus de mal et s'étendent beaucoup plus vite qu'une guerre, militaire. Parce qu'une guerre économique, ça impacte tout un pays automatiquement et donc toutes les personnes qui vivent de ce système. Donc, du jour au lendemain, c'est en Belgique, du coup, 11 millions de personnes qui peuvent être infectées. Comme ça.
Donc, quand il dit je veux arrêter la guerre, pour toi, c'est quoi?
C'est une manière de dire que c'est le grand pacificateur, alors qu'en réalité, il l'a dit d'ailleurs, je pense, dans son discours, moi je veux un pays d'entreprise.
Oui, c'est un businessman, quoi.
C'est ça, je veux un pays d'entreprise, mais le problème c'est qu'une entreprise, son but, c'est de faire de l'intérêt, c'est son intérêt, elle, c'est de fructifier, alors que l'État, son but, c'est le bien public. À partir du moment où on gère un État comme une entreprise, alors on ne fait plus attention au bien public, mais on fait attention au bien privé et à un intérêt.
Alors j'ai une question avant de nous écouter. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? Lost Frequencies. Love is the only thing. Lost Frequencies, il nous envoie de l'amour. La question, c'est est-ce que le fait de dire aux yeux de tout le monde, oui, je vais gérer les États-Unis comme une entreprise, c'est pas genre en fait ce qui se passe depuis la nuit des temps par les gouvernements de partout? Est-ce que simplement il dit pas ce que tout le monde fait, c'est-à-dire chacun veut faire avancer son pays et le mettre sur l'échiquier mondial comme un pays qui crée des ressources, qui fait de l'argent,
Oui, mais en fait le but même de l'État, c'est d'abord de prendre soin de sa population avant de la mettre sur l'échiquier mondial,
idéologique ou un but
L'État a été créé par rapport à ça. C'est le but même de la création de l'État, c'est le bien public, c'est la pacification des conflits au profit du bien public.
Mais là, tu parles de quoi? De civilisation?
Je parle du contrat social de Rousseau. Là, je parle de la fondation de l'État en tant que tel. Je parle de Tocqueville. Je parle de tous ces grands penseurs.
C'est qui?
C'est un grand penseur qui a pensé justement l'État.
C'est un Français?
Ouais.
Ok. C'est l'esprit des Lumières.
Oui, c'est ça.
Ok.
C'est un peu cet esprit-là des Lumières de dire que l'État doit vraiment servir au bien public. Est-ce que tous les pays gèrent leur pays comme une entreprise? Non. Par exemple, la Belgique, je trouve qu'on la gère plus par rapport à un bien public, par rapport au social. on a une vraie sécurité sociale qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus étendue, qui englobe l'ensemble du pays, qui qu'on soit et quoi qu'on soit, alors qu'aux États-Unis ça n'existe pas.
Mm-hmm.
Maintenant aux États-Unis aussi, même s'ils ont géré ça comme une entreprise, pendant longtemps il y a quand même eu un esprit social aux États-Unis.
Quand ?
Avant les années 50.
Ah, intéressant.
Ouais,
avant jusqu'à... qu'ils arrivent comme les grands libérateurs de l'Europe. Si tu dis avant les années 50, c'est avant la guerre.
Depuis John Fitzgerald, Dwight Eisenhower, Eisenhower, quand Eisenhower a mis le New Deal en place, c'était une réforme sociale.
Le New Deal, j'ai entendu parler de ça.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est le New Deal ?
C'est 72 décrets, si je me souviens bien, 72 décrets qui refont socialement l'Amérique. Donc l'Amérique se tourne vers le social comme on pourrait l'entendre ici en Europe.
D'accord.
Pour le bien de sa population.
Et ça a duré combien de temps ça ?
Ça a duré jusqu'aux années 50 justement quand Ronald Reagan est arrivé ensuite au pouvoir. Et ça c'est dû au fait justement que dans les années 50, on décide de donner des droits civiques aux Noirs aux États-Unis.
Oui.
Ça n'a pas plu à beaucoup de monde.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, il y avait un consensus aux États-Unis qui était pour qu'un État soit fort, il a besoin d'une population qui soit forte. Et donc, on investissait énormément dans le social, dans la sécurité sociale, dans l'emploi, dans le chômage, etc. Mais quand l'État fédéral a commencé à donner des droits aux Noirs, beaucoup de conservateurs blancs ont commencé à s'offusquer du fait que l'État fédéral donnait des droits civiques aux Noirs.
Mmh.
Ces gens, souvent riches, ont commencé à faire du lobbying, ont commencé à dire que tous les maux de l'État fédéral, c'était l'État lui-même, c'était la fonction publique, c'était le social, ce n'était pas le privé, et qu'il fallait revenir à cette logique de marché, à cette logique de concurrence,
mm-hmm.
ce qui les arrangeait bien en soi, puisque à cette époque les Noirs n'avaient rien, mm-hmm. donc pour aller concurrencer sur le marché, c'était compliqué.
Enfin, ils essayaient justement de, il y a cette ville en Oklahoma, le Wall Street noir qui était complètement dévasté, je veux dire, il n'avait rien. Enfin,
oui.
C'est compliqué de pouvoir mettre des choses en place parce qu'elles étaient à chaque fois abîmées. On va dire.
Oui, bien sûr. Mais ça faisait les intérêts des blancs à cette époque riches.
Mm-hmm.
Et ensuite est arrivé Ronald Reagan. Et Ronald Reagan, c'est un des plus célèbres présidents. Et lui, il est justement arrivé avec cette idée de dire les 9 mots les plus dangereux de notre langue sont « Je suis du gouvernement fédéral et je suis là pour vous aider ».
What? Ok.
Alors que lui-même était président des États-Unis.
Donc toute l'idée d'entraide, de social, etc.
C'est ça.
Il l'a mis de côté.
D'accord. Et a commencé à sabrer dans la fonction publique. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à sabrer dans la fonction publique aux États-Unis, à sabrer dans tout ce qui était social, à sabrer dans tout ce qui a été le New Deal finalement.
Ok.
Pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui.
D'accord. Pas mal. Je vois bien le changement dans la société américaine. Là, je ne sais pas. Bilal, tu es incroyable. Hein.
Oui, il faut dire quand même que Bilal a 21 ans, c'est ça ?
Oui.
T'as 21 ans, Bilal ?
Ouais. Dire, c'est quand même assez impressionnant.
Impressionnant. Et Noah, qui est notre invité aussi, tu as
20 ans.
20 ans, mais voilà. J'ai dit, ouais, la Gen Z. Ben voilà, la Gen Z. Ouais.
Les jeunes de jour, ils ne savent rien.
Ben voilà, nous, on démontre le contraire. Bon, tendez l'oreille, c'est une très bonne chose, Jeanne, parce que dans quelques secondes, on va faire le tirage au sort pour les 4 entrées pour Dinan Évasion. Sans transition, on est d'accord. En même temps, pourquoi pas ? On parle de tout ça dans un monde qui suffoque un peu, hein. On va voir comment ça se passait. Il y a l'occasion d'aller prendre un peu l'air à Dinan Évasion. Juste après Lost Frequencies, les amis, tirage au sort, en live, en direct. Vous envoyez maintenant le mot Dinan, D-I-N-A-N-T, par SMS au 6322, c'est 1 € par message. Et vous avez peut-être la chance de repartir avec 4 entrées pour Dinan Évasion. Sympa. Sympa pour commencer l'année. Bonne chance, on s'écoute Lost Frequencies, tirage au sort juste derrière. Dinan par SMS au 6322. Bonne chance. Dinan par SMS au 6322. Bonne chance.
Ici, c'est Fun. Fun Radio.
J'ai des idées insensées, reste concentré, mon terrain. Je vais fouiller dans tes pensées, boîte automatique séquentielle, dans la poche un arc-en-ciel, un regard en séquence, on récolte ce qui
je ne t'entends pas. Où es-tu, je ne te vois pas. Ce qui me dérange, c'est pas ton ego, mais quand ça parle du Nero, là tu sais dire te quiero, mon amour. C'est pas ton ego, mais quand y aller, je suis ton bébé. Je veux continuer, mais t'es pas réglo. C'est moi que tu aimes ou bien ma CB. Au fond de moi, j'ai peur d'en faire trop et qu'on trahisse ma confiance après. J'ai déjà pris le risque, mais tu fais mal. Je veux plus aimer puis détester. Je t'aurais pas donné ma confiance si tu la méritais pas. Je t'ai vu, j'y croyais dès le début. J'ai tout fait pour rien briser. À la fin, mon cœur a pris les éclats. Mon âme est mal, je l'ai senti. C'est qui es-tu, je ne sais pas. Qui es-tu, je ne te vois pas. Qui es-tu, je ne sais pas. Ce qui me dérange, c'est pas ton ego, mais quand ça parle du Nero, là tu sais dire t'es quiero, mon âme, mi âme. Ce qui me dérange, c'est pas ton ego, mais quand ça parle du Nero, là tu sais dire t'es quiero, mon âme, mi âme.
Jusqu'à 23h, Larabelle Rose and Friends sur Fun Radio.
It heals me when I'm broken, brings me in from the cold, and in my darkest moments it illuminates my soul. There is no greater power, no higher place to be. And if I say the words out louder, will they come?
Heures, c'est Larabelle Rose and Friends sur Fun Radio.
Toujours là, toujours prêt à vous offrir de jolis cadeaux.
C'était bien Fort Boyard, d'ailleurs, j'ai pas vu.
Oh, c'était incroyable. Ah non, un délai. Oui, village, j'ai fait Fort Boyard.
Ah.
Ouais, je te jure.
C'est cool.
Je suis partie au fort, le vrai fort, parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, vous avez fait ça en Belgique? Non, non, on est pas, on a fait un décor. Non, non, je suis partie là-bas et tout, le petit bateau, tout le monde, Olivier Mine, équipe incroyable, je te jure, c'est passé l'autre jour à la télé, j'étais encore en fou rire tellement, c'était magnifique.
Oui. Regardez la rediffusion.
Ah oui.
Je vous invite à aller sur Ovio.
Regardez comment tu as magnifiquement fait les épreuves, j'imagine, j'ai aucun doute.
Oh, c'est adorable, quelle confiance. J'ai tout donné. Je peux dire que j'ai tout donné. Et d'ailleurs, mon corps s'en souvient parce que pendant une semaine, je n'ai même pas réussi à ouvrir la porte de mon frigo. Tellement j'avais mal au bras.
Des courbatures.
Oh là là là, des courbatures de fou. Alors, en parlant d'aventure, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous avez envoyé le mot Dinan par SMS au 6322, c'est parce que vous avez envie de repartir avec 4 places pour Dinan Évasion, un chouette endroit, parcours d'initiation, parcours aérien, le grand pont, le téléphérique, le souterrain, à faire en famille pour se dépenser et justement sortir un peu de la grisaille de ce moment et faire chauffer un peu les corps, rabougrir. Jeanne, est-ce qu'on est prêt à lancer le tirage
Je
au sort?
Je lance le tirage au sort.
Ben, franchement, oui, vas-y.
C'est parti.
Si ça sonne chez toi en ce moment, c'est que tu as envoyé...
Allô? Oui.
Eh bien, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu repars avec tes 4 places pour Dinan Évasion. Oh! Bon, enfin, mais ça nous fait plaisir. Comment tu t'appelles?
Charlotte.
Charlotte. Charlotte, tu es d'où? Tu nous écoutes d'où?
Je suis à la radio, là.
Oui. Vers la radio. Absolument.
J'ai fait peut-être des jaloux, mais par les fins d'année, je viens de Dinan.
Non.
Oh.
Tu viens de Dinan.
Coïncidence.
Ça fait faire des jaloux. Genre quoi? Elle est déjà à Dinan et elle va même pas devoir prendre la voiture.
Ouais, on va annuler du coup. Bah oui.
On annule ou pas, oui, Charlotte? On annule?
Non.
Mais non, on annule pas. Écoute, félicitations. Oui, tu repars avec tes 4 places pour aller, pas loin de chez toi, à Dinan Évasion.
Mais oui, c'est super. En plus, je voulais l'offrir à ma fille pour ses 10 ans, en disant que ça serait cool qu'elle fasse ça, et je l'avais imaginé. Donc, c'est trop chouette. Et franchement, je suis contente.
Mais c'est nous qui sommes contents de pouvoir réaliser ce que tu avais souhaité pour ta fille. Elle s'appelle comment ta fille?
Olivia.
Olivia, Charlotte, Olivia, très beau. Et tu iras avec d'autres enfants ou tes autres enfants ou des personnes de ta famille?
Ben à mon avis,
Excuse-moi Charlotte, ça coupe un petit peu. Je sais pas si tu as des problèmes de réseau, t'inquiète pas, tes places sont quand même à toi.
Je vais pas dire c'est qui mon opérateur, sinon je vais faire une mauvaise pub. Maintenant j'ai des problèmes de réseau.
Pas grave.
Soit je vais y aller avec mes neveux, soit je vais y aller avec mon autre fille, mais elle est peut-être un peu trop petite, tout ça avec des copines à elle, je vais voir.
Une chouette journée en perspective. Tu as vu que, du coup, tu es à l'écoute de cette émission, parce que c'est la première fois qu'on parle justement de ces places qu'on vous offre. Ne vous inquiétez pas, ainsi comme Charlotte, vous avez envie de aussi avoir vos 4 entrées pour le challenge des Ardentes à Dinan Évasion. Mais le concours continue, vous pouvez toujours envoyer Dinan par SMS au 6322. Tous les soirs de cette semaine, on vous offre 4 entrées. On parlait de Trump et de donc l'investiture de Trump. Toi, t'as suivi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu t'en carres les miches, comme on dit?
Alors, c'est plutôt mon compagnon qui m'en parle et j'ai suivi. Bon, je sais pas si je dois donner mon avis. Ben voilà, on
tu
est
peux,
parti.
Si tu veux.
On est parti. C'est ce que j'ai vu. Je travaille dans une maison de repos et j'ai vu le journal des résidents et la première page était: nous sommes partis pour des milliers de jours d'incertitude. Eh bien, oui. Voilà. Eh bien, je sais pas comment ça va aller.
C'est ton sentiment? Pour l'instant, c'est point d'interrogation.
Ben, par rapport à mon interrogation, c'est par rapport au climat, c'est par rapport un peu à tout ce qu'il fait, par rapport au fait qu'il a été jugé, il me semble. Et bon, c'est un peu assez bizarre. Enfin, tout ça, je ne comprends pas trop, mais bon...
Bah écoute, on va essayer de répondre à tes questions qui sont nos questions à tous. Hein. C'est vrai qu'on a oublié de parler de ça. Merci Charlotte de nous rappeler que Trump a quand même été au milieu de plein d'histoires judiciaires. Il en est où? Tu restes un peu avec nous Charlotte, encore 2-3 minutes pour discuter ou tu veux revaquer à tes occupations?
Non, ça va, c'est bon, écoute, je fais.
Très bien, voilà, on est maintenant 6 autour de cette table, ça fait plaisir. Donc Bilal,
oui.
Les problèmes judiciaires, on en est où? Il est acquitté, il est condamné, c'est quoi?
Il est encore en procédure pour la plupart de ses procédures judiciaires, il a 70 accusations.
Donc accusations, c'est... Bah toi tu rigoles, non mais c'est vrai,
on a tendance...
Je pense en vrai, accusations.
Je pense qu'il y en a une pour laquelle il a été rendu coupable, mais il n'aura pas de peine, étant donné que c'est le président maintenant.
Oui. Ah. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs de l'exécutif.
C'est-à-dire que c'est arrivé dans le calendrier au bon moment parce que maintenant il a l'immunité. présidentielle.
Ouais, c'est ça.
Mais je crois c'est que c'est avec l'exécutif. Je crois que pour cette affaire-là, c'est avec l'affaire Stormy Daniels.
Oui, où il a payé le silence, payé, entre guillemets, de cette personne.
Oui, voilà, de cette actrice.
Moi, j'ai juste une question, qui va peut-être paraître un peu bizarre, mais on n'a pas le droit de payer le silence de quelqu'un, je comprends pas.
Là, c'était pour le faire.
Non, mais j'ai une question. Il a une relation sexuelle avec une porn star. C'est une porn star ou pas? Je sais pas. Une
escroquerie. Oui, apparemment.
Voilà.
Oui,
je crois, ouais. Il veut pas qu'on en parle. Il la paye. Et c'est quoi le problème, en fait?
Le problème, je pense que c'était plus un dessous de table qu'autre chose, non?
Mais pourtant,
Et on n'a pas le droit de payer quelqu'un pour lui dire ne raconte pas mon histoire.
En vrai, là où je comprends ta question, c'est parce que, la relation était normale.
Consentie, il n'y a pas eu de viol.
Il y a une différence aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même rapport à tout ce qui est polémique sexuelle que chez nous. Chez nous, on se dit, vas-y, ses avis, on s'en fout. Là-bas, c'est une affaire d'État.
Alors, quoi qu'en vrai, ici aussi. T'as pas vu en France, François Hollande, comment il s'est
fait... Avec Julie Gaillet, là.
Ouais, mais ça a fait moins de bruit que...
Ah, ça a fait une couverture sur public, moi je m'en souviens très bien.
Je m'en souviens très bien,
la moto et tout, t'inquiète pas.
C'est quoi, on va demander à Jeanne GPT si justement, pourquoi est-ce que vraiment c'est un délit, tu crois ça, un délit, de payer quelqu'un pour acheter son silence. Peut-être c'est une question ridicule, hein, mais moi quand je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment... Il l'a pas violé, enfin je veux dire, à moins qu'il était dans la course présidentielle, ou peut-être que dans le cadre de cette course présidentielle, ou peut-être
que
là...
Ça s'est passé avant.
Pendant qu'il faisait sa télé-réalité, là.
C'est vrai, ça.
Ça s'est passé il y a longtemps.
Oui, j'imagine, oui.
Ça s'est passé bien avant.
On va voir, on va demander parce que nous on n'est pas assez calés sur les problèmes est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est vraiment grave de payer quelqu'un? Charlotte, chérie Charlotte.
Oui.
On va prendre tes coordonnées hors antenne, comme ça on peut t'envoyer les 4 entrées pour Dinan Évasion.
D'accord.
On embrasse aussi ton compagnon apparemment qui est passionné par la politique américaine, c'est ça, si j'ai bien compris?
Passionné.
Quoi?
Mais en tout cas, on dirait qu'on suit l'actualité, quoi. Mais voilà, c'est interpellant. Voilà, moi j'aurais jamais cru qu'il serait passé.
Mais oui, c'est vrai.
Je n'aurais pas cru. Mais bon, voilà.
Mais il est là. Je te dis, il est bien là. Il a fait son truc. Il était bien coiffé. Ils étaient tous là, les monts Rushmore du digital, là. Elon Musk.
Mark Zuckerberg.
Ouais, Bezos. En dernier, Musk, dans la ligne. Hein.
Ouais.
Vraiment. Donc c'était Musk, Bezos, et puis il y avait une femme, je crois, et puis l'autre derrière.
Lui qui.
Zuckerberg.
Il a rejoint le plus tardivement.
Il a rejoint la mêlée, quoi. Oui, on va en parler dans quelques secondes justement de cette arrivée et de ces réseaux sociaux à disposition de Trump. Charlotte, on t'embrasse très fort.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne fin d'émission.
Merci beaucoup.
Merci.
Embrasse tout le monde.
Merci Charlotte.
Et bisous à Olivia.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bisous. Ciao, ciao. Bisous Charlotte.
Salut.
Voilà, je vous rappelle, hein, si comme Charlotte, vous voulez repartir avec vos 4 entrées pour le challenge à Dinan Évasion. Attends, c'est quoi le nom précis même? C'est le challenge des Ardennes à Dinan Évasion. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous offre. 4 entrées justement pour ça. Vous envoyez le mot Dinan par SMS au 6322. On vous en offre 4 entrées tous les soirs. Et c'est ouvert. C'est
pas mal.
C'est pas mal, je trouve. Mm-hmm. Franchement, pour 1 euro, c'est pas mal. Tu essayes. Et la plupart des gens, ils envoient un message et c'est bon, hein. Moi, je dis ça, vous envoyez combien vous voulez, mais je dirais, ça ne paye pas, c'est pas pour moi, c'est pour la cause. Mais voilà, bonne chance à vous. On a vu ou pas, qu'est-ce qu'ils disent sur l'histoire de...
Alors,
est-ce qu'on n'a pas le droit de payer quelqu'un pour son silence? Enfin, je veux dire, moi, j'en ai payé les gens pour leur silence.
Ils disent que c'est pas en soi un délit, mais que ça peut devenir problématique, voire constituer un délit dans certains cas spécifiques, obstruction à la justice, extorsion, oppression, dissimulation d'un délit, atteinte à l'ordre public ou alors condition abusive ou illégale dans l'accord.
Mais dans le cadre de Trump et de Stormy.
S'il a menacé peut-être.
Je pense que c'est
il a fait pression, il a menacé quelque chose, c'est peut-être ça le problème en soi.
C'est pas l'argent.
Oui.
Non, c'est la pression qu'il a mis dessus, je pense.
D'accord.
Parce que peut-être il aurait pu faire en sorte de demander de l'argent. Il dit OK, moi je te donne telle somme et tu dis rien, mais si tu dis c'est pas grave, ça aurait été un peu bizarre parce qu'il se serait fait un peu avoir. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il n'aurait pas eu de problème. Et s'il a menacé en disant, je sais pas, je vais te retirer ça, je vais t'envoyer telle personne qui va te faire
ça,
différent.
C'est autre chose. Là, c'est...
Donc, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que là, s'il y a eu des menaces, là, c'est vrai que ça serait différent quand même.
Qu'est-ce que dit Jeanne GPT ?
Il dit, si le paiement a été fait dans le but d'influencer l'élection, cela en fait une dépense de campagne illégale. Si les documents financiers ont été falsifiés pour couvrir ce paiement, cela constitue un délit distinct.
Oh, mais dis à Jeanne GPT, là, tu lui dis, tu peux enlever les si de tes trucs et me donner une réponse correcte, là. Qu'est-ce que c'est que ces outils, là, qui nous disent
qu'est-ce
les
que
si ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Enfin, bon, on va reposer la question de manière plus claire, comme ça on est sûr d'avoir une réponse. Est-ce que payer quelqu'un pour son silence est vraiment un délit aux États-Unis ? Pourquoi est-ce que Trump a été dans la tourmente pour ça ? Il a été accusé donc 70 fois, c'est ça que vous dites. Mais accusé n'est pas être coupable.
Non,
il a accusation.
Il a 70 chefs d'accusation sur la tête.
De quel ordre ?
De quel ordre ? Donc il y a le délire du Capitole.
Ah oui, non, ok, ça d'accord, ça on va en parler aussi.
Ça qui lui est sur la tête. Puis je pense qu'il y a d'autres affaires qui sont antérieures à sa présidence.
Alors, on va aussi parler de la crypto Trump. Dans quelques minutes, là, j'ai envie d'appeler mon ami Chris, spécialiste des cryptos, des NFT, parce que la crypto Trump, elle a été valorisée à plus de 57 milliards en 24 heures. What the fuck? C'est quoi cette histoire? Non, tu t'y crois pas, toi?
Bah, je sais qu'il y a Mélania qui a fait la même chose. Son truc a flop.
Oui, on a
Mélania a flop, mais...
On a un ami, d'ailleurs, que je salue, hein. Je fais une petite décasse, Joachim, d'ailleurs, si tu nous écoutes.
Joachim.
D'ailleurs, hein, pour l'investissement vraiment.
Attends, Joachim. Votre ami Joachim a acheté la crypto
non,
de Mélania.
Je sais pas s'il l'a acheté. Je sais pas s'il l'a acheté, mais il a dit acheter. Acheter, ça, vous allez voir, ça va marcher.
Attends, et quoi? Et la crypto de Mélania n'a pas marché? C'est quoi l'histoire?
Je pense qu'elle a marché.
Très bien marché.
Parce que moi, je l'achète, j'aime bien, elle. Elle est toujours hyper, très élégante, Mélania.
Ouais, bah, ça a pas marché.
On va poser la question à Chris dans quelques secondes. On va s'écouter David Guetta, Forever Young, et on se retrouve juste après pour la suite de la discussion autour de l'Amérique et des fake news et de Donald Trump et de Stormy Daniels et de ce qui est bien et pas bien dans ce monde.
Ici, c'est Fun.
Fun.
Fun Radio.
Like it or not, I'm yours. Don't know how just yet. The seasons keep changing, my heart's rearranging. Oh, I'm lost, lost. And the past keeps haunting. Give me some love, love.
À 23h, Lara Belle-Rose and Friends sur Fun Radio.
C'est bon, on a trouvé. J'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que Donald Trump s'est fait attaquer parce qu'il a payé le silence de Stormy Daniels. Parce qu'en vrai, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de payer le silence de quelqu'un, ma foi? Non? Tu fais ce que tu veux de ton argent, tu dis
on
écoute,
en a les moyens.
Tu vas pas dire que j'ai fait ça, tiens 100 000 dollars. Si tu as l'argent de pouvoir le faire, après d'autres pourraient se faire acheter leur silence peut-être pour 25 euros. Ça dépend ce que tu veux cacher. Mais apparemment, c'est pas le fait qu'il ait demandé à quelqu'un de garder le silence en donnant de l'argent. C'est
la falsification comptable.
La falsification comptable. Mais enfin, mais Trump, comment ça se fait? Quel argent est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé
C'est pas sérieux.
Mais donc, en réfléchissant.
Mais c'est le président.
Mais et c'est lui le président. Mais en vrai, il était un peu coincé puisqu'il était en pleine campagne.
Ouais.
Et donc, le problème, c'est que tu nous as expliqué Bilal hors antenne, mais ce serait bien peut-être que tu partages ça avec nos auditeurs.
Ouais, c'est ça. Donc, quand on est en campagne électorale, tous nos frais, même personnels, rentrent dans les frais de la campagne. Donc, voilà.
Donc, tes frais personnels. T'imagines les frais personnels de Trump?
Surtout que là-bas, ils n'ont pas de limite.
C'est colossal. Non, mais en plus.
Une limite.
Tu dis personnel, pas d'entreprise, hein. Donc, ces entreprises ne sont pas nécessairement, donc quoi?
Non, pas forcément.
Mais donc, toi, par exemple, tu sais que dans la vie politique ici en Belgique.
C'est ça aussi.
Si tu te présentes aux élections, à partir du moment où t'es dans ce monde-là, tu es en campagne, on décortique tes comptes. Ouais. On sait ce que t'as, on connaît ton patrimoine.
Si tu payes quelque chose pour quelqu'un, tu dois le déclarer.
Donc, tu m'invites à manger un durum?
Je dois le déclarer.
Ah ouais?
Et je vais avoir le ticket pour bien prouver que...
Voilà, parce que potentiellement, t'es en train de faire du lobby sur moi.
C'est ça. Je suis en train d'acheter ta voix.
Mon silence.
Silence.
C'est vrai qu'un durum à Lara...
Ah oui, c'est bon.
T'achètes plus que son silence.
Imagine. Allez, c'est bon. Bah ouais, mais moi, la bouffe, tu me prends par les sentiments. Moi, j'ai pas besoin de 100 000 dollars. Moi, tu m'amènes au restaurant italien du coin, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je cache? Il y a un corps, il y a quoi?
Tu m'amènes au Quick, manger un petit volo-volo.
Volo-volo, oui, hein? Je tiens à vous dire, les amis. Il y a un nouveau burger, là, au Quick.
Mais oui, en plus, c'est le Blue Monday, là, aujourd'hui.
Alors, il paraît que c'est le jour le plus triste de l'année.
Déprimant de l'année.
Oui. Paraît-il que
j'en ai fait les frais.
Pourquoi?
Ah ouais?
Ouais, j'étais un peu déprimée tout à l'heure quand je suis arrivée. J'ai passé une journée vraiment longue avec le brouillard et tout. Tu vois, en fait, c'est la période un peu.
J'ai senti quand je t'ai appelée, ouais, je me suis dit, oula, elle va pas bien, elle.
Ouais, tiens, qu'est-ce que t'as là?
Qu'est-ce qu'elle a? Et bon, maintenant, ça va mieux.
Bah écoute, maintenant, à partir de 20h, évidemment, le soleil dans mon cœur.
Mais justement, si tu passes une mauvaise journée, apparemment, Quick a un nouveau burger.
Un nouveau burger, tout à fait. Un burger volo, c'est-à-dire au volovent. Avec, je pense que c'est du poulet et puis du vol au vent, enfin une croquette de vol au vent.
C'est quoi ça, une croquette de vol au vent?
Bah une croquette avec ce qu'on peut retrouver dans le vol au vent.
D'accord.
Tu vois, genre les champignons, les petites boulettes. Tu mets quoi dans un vol au vent?
Je sais pas, jamais fait de vol au vent. Enfin, je veux dire, tu crois que je sais même pas faire un œuf? Je me souviens du vol au vent. Mais par contre, un burger vol au vent, je suis curieuse. Bon, il vient de sortir. On va aller découvrir.
C'est
on va découvrir ça. Ah oui, a priori c'est la chaleur, c'est le foyer, c'est...
A priori c'est pas mal.
Pour le Blue Monday, c'est pas mal. On parlait justement de la monnaie, de la crypto-monnaie que Donald Trump a mis sur le marché. Pour ça, évidemment, j'ai fait appel à mon ami Chris, expert en crypto-monnaie. Ça va Chris?
Ça va et vous?
Mais ça va
bonsoir
bien.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Pour les personnes qui sont branchées sur la Funvision, Chris est visible. Tu es chez toi. Tu es bien placé, pas mal, hein, avec des jolies choses, avec ta jolie casquette. Ça va, Chris, tout va bien?
Ça va très très bien, toi.
Mais écoute, ça roule. On a évoqué la crypto que Trump a mise sur le marché. Toi, tu en sais quoi? Moi, j'ai juste entendu qu'elle était valorisée à 57 milliards de dollars en seulement 24 heures. C'est réel?
C'est très très réel. En fait, ça a été quelque chose d'assez bullish en fait comme crypto-monnaie. On se rendait pas. Enfin, personne. En fait, il a fait vraiment un coup de poker ce Trump. Donc, c'est vraiment un philanthrope. Hein, donc, il est très très puissant au niveau financier. Tout le monde le sait. Mais il a sorti sa monnaie sans que personne voilà n'était au courant. On a tous été assez étonnés dans le milieu de la cryptosphère. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Donc, le premier jour, il était déjà listé sur notre exchange, donc sur crypto.com. Et donc je me suis dit bon voilà je vais taper un petit billet dessus et je crois que j'ai bien fait parce que j'avais plus que quadruplé en 24 heures.
Mais non, voilà. C'est-à-dire quoi, hier?
Ouais, c'est-à-dire que, enfin voilà, parler de chiffres c'est toujours un peu embêtant, mais j'y croyais pas trop à cette monnaie. C'est un peu une monnaie casino, donc c'est pas des monnaies dans lesquelles j'y crois. Donc à la base, tu sais, moi je suis plus Bitcoin, XRP, enfin toutes les monnaies. Et là je me suis dit bon ben voilà, maintenant le seul problème que j'avais avec cette crypto là, c'est que enfin, quand on parle d'un market cap, il y a une réserve toujours de jetons, et cette réserve s'élève à 1000 milliards de jetons, donc ce qui est énorme, sauf que le problème, c'est qu'il y a juste 200 milliards de jetons qui sont en circulation, et il y a 800 milliards de jetons qui sont détenus par l'organisation Trump. Donc,
Sur chaque monnaie, ce que tu veux dire, c'est que sur chaque crypto, on peut aller jusqu'à un nombre maximal de 1000 milliards de coins, c'est ça?
Après qu'on avait parlé Bitcoin à l'antenne, Bitcoin, quand il va arriver à sa valorisation totale, il y aura 21 millions de jetons. Mais par exemple, la monnaie que Trump a créée, ben voilà, il a décidé d'en créer 1000 milliards, il aurait pu en créer 2000 milliards, 3000 milliards ou
1000. Ah, c'est chacun qui décide. Ok, d'accord, c'est à la tête du client, quoi.
Ouais, lui, donc en fait, il a dit, voilà, on va organiser ça, on va créer autant de jetons. Donc c'est sa supply, en fait, c'est son nom. En circulation, mais sauf qu'en circulation, il y a uniquement, ça paraît beaucoup, mais c'est 200 000 milliards de jetons. Mais ce qui fait peur, c'est que les 800 000 milliards sont détenus par lui-même, enfin, et par son organisation, tu comprends?
Oui, ok. Donc, en fait, il peut faire dévaluer ou faire monter la monnaie et se faire un max de fric, en fait.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas encore, il n'y a pas vraiment de white paper transparent, etc. par rapport à ça. Donc, ça veut dire que normalement, d'après les écrits que j'ai pu survoler, il paraît qu'il va continuer à arroser le nombre de jetons sur un délai de trois ans. Mais donc, ça veut dire que dès que les jetons montent, etc., mais il y a déjà une hyper volatilité dans la crypto. Mais en plus de ça, ça va encore influencer, je veux dire, sur le prix à la baisse. Maintenant, le coup de poker que j'ai fait et que plusieurs personnes ont fait qui sont dans mon entourage, ben voilà, je te dis, on a mis un petit biais, c'était vraiment la chance. On a essayé, mais on savait que ça allait monter par rapport à l'engouement de Trump et voilà. On a vendu un peu au bon moment, on a gardé un petit peu, mais bon, c'est...
Elle monte ou elle est déjà redescendue?
Bah, elle a remonté un petit peu, mais elle est redescendue. Donc là, à l'instant où on se parle, elle est à 40 euros.
Ok.
Donc, oh ben voilà, c'est pas mal, en sachant que son point le plus haut a été de 70, de mémoire 70. Je vais juste voir, je contrôlais
pas. C'est pas mal ça, 30 euros en plus, c'est énorme.
Ouais, donc il avait reperdu. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, ouais, voilà, son ATH était à 73 euros. Donc ça, c'est vraiment le point le plus haut hier.
Ok.
Donc faut diminuer, et comme c'est Bilal, c'est ça, je pense, hein, parce que j'écoutais, ouais. j'ai après, ouais, bonjour Bilal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai, Melania, alors ils ont sorti le token Melania, mais je suis pas très d'accord avec ce que Bilal a dit juste avant, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que le token est vraiment en train de corriger, donc le fameux Melania, le meme coin, qui a été aussi listé sur les plus gros exchanges du monde, donc notamment le nôtre, hein, donc sur Crypto.com, et là, à ce moment-là, attends, je rafraîchis un petit peu, c'est vrai qu'il a bien corrigé, on est à 5,85€, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que juste sur le Melania, donc en 24 heures, il y a eu plus de 6 milliards de dollars échangés sur cette monnaie.
Waouh! Et elle est passée de combien à combien? Parce que là, elle est à 5,85, mais donc...
Et son point le plus haut était à 13. Donc, voilà, elle a... C'est pas encore, mais voilà. Mais c'est la même chose, hein. Elle a aussi 1000 milliards de jetons. Et il y a en circulation 150 000 milliards de jetons, donc il y en a un petit peu moins que pour son chéri, mais voilà, donc je pense que des tokens, si on est un peu, voilà, encore une fois, aucun conseil en investissement dans ce que je dis, enfin, c'est ce que j'ai toujours en antenne, hein, donc chacun fait ce qu'il veut et bien prendre ses